Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, dans notre étude de la parole de Dieu, nous allons retourner à la lettre de Paul à Philémon, l'épître à Philémon, cette courte épître de 25 courts versets, un seul chapitre, est une leçon vivante sur le pardon. C'est notre troisième étude sur quatre de cette petite épître, et nous nous retrouvons ce matin encore au pied de Paul pour apprendre à pardonner. Vous vous souvenez que les trois premiers versets nous ont donné l'introduction. Ensuite, les versets 4 à 7 nous ont montré les caractéristiques de quelqu'un qui pardonne. Et maintenant, dans les versets 8 à 18, nous arrivons à l'action du pardon lui-même. Nous allons examiner la question même du pardon, pour rappeler à votre esprit et faire juste un peu de révision au cas où vous auriez oublié, ou si vous êtes avec nous pour la première fois. Philémon était un laïc, chrétien, vivant dans la ville de Colosse. Et dans sa maison, l'église se réunissait. Il avait été conduit au Christ par Paul. Sa femme s'appelait Apphia, son fils Archippus. Ils avaient un esclave du nom d'Onésime. Onésime s'était enfui. Il était un fugitif, un esclave fugitif. Il voulait sa liberté. Il s'est retrouvé à Rome. Et quand il était à Rome, par la providence de Dieu en quelque sorte, il a rencontré l'apôtre Paul. Paul était prisonnier dans une maison là-bas, une maison louée, et capable de faire un peu de ministère. Et d'une manière ou d'une autre, cet esclave fugitif, Onésime, a été conduit à Paul, et Paul l'a conduit à Christ. Maintenant il le renvoie à son propriétaire, Philémon, avec cette lettre demandant à Philémon de lui pardonner pour sa faute, pour son escroquerie, et pour tout ce qu'il pourrait devoir à Philémon, car il avait volé des choses en partant. Donc, c'est un appel à un homme pour pardonner celui qui a péché contre lui, à savoir cet esclave fugitif, Onésime. Le thème de ce petit livre est le pardon. Une chose intéressante, le mot pardon n'est jamais mentionné. C'est presque comme si le Saint-Esprit en faisait une épître remplie de blanc. C'est partout, mais jamais déclaré comme le pardon. Et pourtant, c'est clairement de quoi il s'agit pour le lecteur. Une autre curiosité de ce livre est le fait qu'il n'y a aucun principe doctrinal donné qui fournirait la base pour le pardon. Vous présumeriez qu'un théologien comme l'apôtre Paul, en appelant un homme à pardonner, voudrait lui expliquer la théologie du pardon, ou les principes bibliques qui font du pardon un mandat, une exigence ou un commandement. Mais vous ne trouverez rien de tout cela ici. En fait, lorsque vous parcourez cette épître, il n'y a rien qui soit dit en termes de principes au sujet du pardon. L'appel, bien au contraire, n'est pas à la loi ou aux principes, ni à la théologie, ni au texte biblique, mais c'est l'appel à l'amour. Il prend la hauteur. Il sait que Philémon est un homme pieux. Il sait qu'il est un homme spirituel. Il sait qu'il est un homme dont le cœur envers Dieu est juste. Et ainsi, il ne fait aucun appel à la loi, mais il fait appel à l'amour, ce qui, je le répète, est bien meilleur. Maintenant, nous devons supposer que Philémon connaissait la théologie du pardon. Nous devons supposer que Philémon connaissait les principes sur lesquels le pardon est construit, les doctrines bibliques qui nous conduisent au pardon. Il doit les avoir connues. Il est évident qu'il était fondé sur la connaissance de la parole. Cependant, même si je le souhaitais, je ne pourrais pas faire la même supposition à propos de vous tous. Je pourrais faire appel à l'amour, mais je ne suis pas sûr que vous compreniez tous la théologie du pardon qui se cache derrière cet appel. Et donc, je pense qu'il pourrait être bon pour nous, pour une brève partie de notre discussion ce matin, de poser quelques éléments fondamentaux du pardon qui surgissent de l'Écriture et qui nous obligent à pardonner en se basant sur la parole d'autorité de Dieu. Laissez-moi vous donner cette clé, cet élément, ou cette caractéristique d'une défense théologique, doctrinale et biblique du pardon. Premièrement, ce n'est pas le meurtre seul qui est interdit par le sixième commandement, mais le manque de pardon. Le sixième commandement, tu ne tueras pas. Mais c'est juste une petite déclaration étriquée qui a besoin de beaucoup plus de substance pour être comprise. Et pour ce contenu, nous devons seulement nous rappeler Matthieu, chapitre 5, et les paroles de Jésus lui-même, qui a dit ceci. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, mais celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira son frère « Raca », ce qui est un terme de dérision, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. En d'autres termes, Jésus a dit que lorsque Dieu a dit que vous ne deviez pas tuer, il voulait aussi dire que vous ne deviez pas haïr, que vous ne deviez pas être méchant, vous ne deviez pas vous fâcher, ni avoir un désir de vengeance. Vous ne manifesteriez pas un manque de pardon. Dieu interdit aussi cela. La théologie du pardon commence alors, vraiment, avec le décalogue, ou les 10 commandements. Nous ne devons non seulement ne pas tuer, mais nous ne devons pas nourrir le genre d'émotion qui pourrait nous amener à prendre la vie de quelqu'un. Maintenant, comment puis-je me débarrasser de certaines de ces attitudes de colère, d'hostilité, de non-pardon et de vengeance? En premier lieu, voyez celui que vous ne voulez pas pardonner, comme la création de Dieu. En d'autres termes, aimez cette personne et pardonnez-lui pour ce qui est de Dieu en lui. Pour chacun d'entre nous qui est créé à l'image de Dieu, bien que cette image soit marquée et gâchée. Et si je regarde un croyant qui est chrétien, il est donc saint, et il porte quelque chose de l'image morale de Dieu, et je peux lui pardonner pour ce qui est de Dieu en lui. Si je regarde un non-croyant qui n'est pas saint, il porte encore l'image naturelle de Dieu en lui, et je peux lui pardonner pour ce qui est de Dieu en lui. Cela pourrait remplacer ma colère et mon manque de pardon avec révérence, si je peux voir l'image de Dieu dans quelqu'un. De plus, Jésus a dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Certainement. Vous cherchez à voir l'image de Dieu en vous, n'est-ce pas? Ne vous trouvez-vous pas éminemment digne de pardon? Ne trouvez-vous pas difficile de comprendre pourquoi quelqu'un d'autre ne vous pardonnerait pas? Vous êtes certainement désireux de vous pardonner. Contre vous-même, vous ne gardez aucune rancune. Contre vous-même, vous n'exigez aucune pénalité. Vous ne portez aucune vengeance. Et si vous ne vous mettez pas en colère contre vous-même, ce n'est pas dans un désir de destruction, mais un désir de bénédiction. C'est le rétablissement que vous recherchez. Donc, vous devez d'abord comprendre que toute haine, tout manque de pardon, est une violation du commandement de ne pas tuer, parce qu'il sous-entend cette attitude de meurtre, qui prendrait la vie de quelqu'un s'il pouvait et s'en tirait, ou leur causerait du mal si cela était possible. En outre, si vous devez faire face à cette attitude, vous devez reconnaître que votre manque de pardon est tout simplement égoïste. Vous devez faire face à votre égoïsme. C'est justement cette affection imméritée pour vous-même qui aggrave les fautes des autres qui vous offensent. Je le répète, c'est une affection imméritée pour vous-même qui vous fait aggraver les fautes des autres qui vous offensent. D'un autre côté, si vous êtes humble, désintéressé, et vous renoncez à vous-même, vous vous considérerez comme une personne si humble que toute offense contre vous pourrait être considérée comme significative. Un orgueilleux estime de soi est facilement irrité et généralement impitoyable, parce qu'il a une si haute estime de lui-même et tant de haine à l'égard de quiconque offense cette entité glorieuse. Donc, si vous ne pouvez pas tuer, dit Dieu, vous devez haïr, mais vous ne devez pas être en colère, vous ne devez pas être impitoyable, et si vous êtes impitoyable, vous manifestez de l'égoïsme. Vous ne voyez pas chez les autres l'image de Dieu, et vous violez, en effet, le 6e commandement. Deuxièmement, laissez-moi vous donner une autre base théologique pour le pardon. Celui qui vous a offensé Dieu encore plus. Et si Dieu, le plus saint, lui a pardonné le plus grand péché, pouvez-vous, le moins saint, refuser de lui pardonner le moindre péché? Comprenez-vous cela? David, qui a péché contre Bethsabée, qui a péché contre son mari Uri, qui a péché contre sa propre femme, ses propres enfants, sa propre nation. David, qui a péché contre toutes ces personnes, a dit dans le psaume 51 « J'ai péché contre toi seul ». En d'autres termes, il savait que quelle que soit l'offense qu'il commettait devant les hommes, c'était une plus grande offense pour Dieu. Et si Dieu peut pardonner la plus grande offense, alors pourquoi ne pouvez-vous pas pardonner la moindre offense? C'est le but. C'est la question inexplicable dans la parabole de Matthieu 18, où le roi pardonne à l'homme la dette impossible à rembourser, et ensuite l'homme ne pardonnera pas à un autre homme une dette beaucoup plus petite, mais l'étrangle et le jette en prison. Et le point est celui-ci. comment pouvez-vous accepter de voir Dieu pardonner la plus grande offense? Et vous ne pardonnez pas la plus petite? Un crime contre vous est un crime plus grand contre Dieu. Chaque fois que quelqu'un pèche contre vous, cela peut vous offenser, mais cela offense plus Dieu. Pourquoi? Il est plus saint que vous. Le péché est plus grave pour lui. Il est plus offensant pour lui. La même offense peut être une chose sérieuse pour vous, mais c'est une chose bien plus sérieuse pour un Dieu infiniment saint. Pourtant, Dieu pardonne miséricordieusement. Êtes-vous plus juste? Êtes-vous plus saint? Êtes-vous un tribunal supérieur avec une loi supérieure? La vérité est, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas du tout comme Dieu, vous êtes plus comme le diable. N'oubliez pas, vous avez beaucoup à vous faire pardonner par Dieu, et il n'y a aucune comparaison entre les offenses des autres hommes contre vous et vos offenses contre Dieu, que ce soit en nombre, en gravité ou en conséquence. Personne ne pourrait vous offenser comme vous offensez Dieu, et Dieu vous pardonne. Ne pouvez-vous pas pardonner aux autres? Vous méritez la condamnation de Dieu, et moi aussi. Mais il nous fait miséricorde pour toutes nos transgressions. Allez-vous passer votre vie à vous venger des petites blessures qui vous ont été infligées? Quelle est la théologie du pardon? Rappelez-vous ceci. Dieu interdit la colère, la haine et le refus de pardonner, pas seulement le meurtre. Rappelez-vous ceci. Il est le plus offensé et il pardonne. Et vous qui êtes le moins offensé devrez pardonner. Troisièmement, et ce principe est très important, vous n'aurez pas le pardon de Dieu si vous ne pardonnez pas aux autres. Nous avons noté que dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, Dieu dit que si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père vous pardonnera les vôtres. Si vous ne pardonnez pas aux autres, il ne vous pardonnera pas. En d'autres termes, dans le sens de notre relation à Dieu, nous nous tiendrons devant Dieu avec un péché non pardonné, sous son châtiment, si nous ne pardonnons pas aux autres. C'est un prix élevé à payer pour un manque de pardon. Si vous refusez de pardonner à quelqu'un d'autre, alors Dieu refuse de vous pardonner, et vous êtes coupé de la communion significative avec Dieu, et vous êtes soumis au châtiment. Quatrièmement, vous n'aurez pas l'amour des frères si vous ne pardonnez pas. En d'autres termes, vous ne pourrez jamais participer à la communion joyeuse, à la communion fraternelle et à l'amour des croyants chrétiens si vous ne pardonnez pas. Vous souvenez-vous de cette parabole dans Matthieu 18? Est-ce que vous vous rappelez que l'homme est sorti et a étranglé cet homme et il a dit « Je veux tout ce que tu me dois » et il ne pouvait pas le payer. Alors il l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. C'était un homme que Dieu avait pardonné, mais il ne pardonnerait pas à un ami. Dans le verset 31 de Matthieu 18, il est dit « Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. » Qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire ce que c'est. Vos amis chrétiens vous voient avec une attitude impitoyable, allant vers Dieu et disant « Dieu, tu dois discipliner cette personne. Il y a vraiment une image de la discipline de l'Église ici. » Les saints se rassemblent devant Dieu et se disent « Dieu exerce une certaine discipline dans la vie de cette personne. Vous détruisez vos propres relations avec les autres chrétiens, qui devront ensuite aller à Dieu et lui demander de traiter avec vous en termes de discipline et châtiment si vous ne pardonnez pas. Si vous ne pardonnez pas, ils seront impitoyables et demanderont à Dieu de traiter avec vous. Et ainsi, vous perdrez non seulement la communion avec Dieu, mais vous perdrez le soutien doux, encourageant, aimant et rassurant d'autres croyants qui vous voient comme une menace à la pureté de l'Église et vont à Dieu pour qu'il vous change ou qu'il vous jette dehors. Écoutez, la théologie du pardon est la suivante. Dieu interdit l'attitude de non-pardon autant que le meurtre. Il est le plus offensé et pourtant il pardonne. Et vous, le moins offensé, devrez donc pardonner. Vous n'aimerez pas la communion avec Dieu qui coule de son pardon si vous ne pardonnez pas aux autres. Et vous ne pourriez pas profiter de la douce communion et de l'amour des chrétiens. Cinquièmement, un élément très important dans la compréhension du pardon. Si vous ne pardonnez pas, et cherchez plutôt la vengeance, vous avez usurpé l'autorité de Dieu. Dans la lettre de Paul aux Romains, dans ce merveilleux 12e chapitre, pratique, écoutez ce qu'il dit au verset 14 et 19. « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » Et au verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Laissez la vengeance à Dieu. Quand vous ne pardonnerez pas à quelqu'un, lorsque vous transportez cette attitude de colère, d'amertume et d'hostilité, vous présumez littéralement de prendre l'épée du jugement divin hors de la main de Dieu et de l'utiliser vous-même. Vous dites « Dieu, donne-moi cette épée, Je prends la relève. Une telle attitude dit « Je dois être le vengeur, parce que Dieu est injuste, Dieu est lent, Dieu est indifférent, ou Dieu ne comprend pas, il est ignorant, ou Dieu est incapable de juger. » Et c'est du blasphème. Dieu est beaucoup mieux à même de traiter toute offense contre vous que vous. Il est capable de faire face aux conséquences du péché bien mieux que vous. Il a la meilleure compréhension de la question. Vous êtes limité dans la compréhension. Il a la plus haute autorité. Vous n'en avez aucune. Il est impartial et juste. Vous êtes égoïstement partiel. Il est omniscient et éternel. Il voit la fin de tout. Vous êtes myope, ignorant, ne voyant rien au-delà du moment présent. Il est sage et bon, et tout ce qu'il fait a des objectifs parfaitement justes. Vous êtes ignorant et aveuglé par la colère, et vos intentions peuvent être mauvaises. Cela n'a aucun sens que quelqu'un soit aussi blasphématoire que de prendre l'épée de la main de Dieu et pour la manier lui-même. Sixièmement, un point très important. L'absence de pardon vous rend inapte à l'adoration. L'absence de pardon vous rend inapte aux louanges. Toujours dans le sermon sur la montagne de Matthieu, chapitre 5, notre Seigneur a dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. N'osez pas m'adorer, si vous n'êtes pas réconcilié avec votre frère chrétien. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans un tel état d'esprit de non-pardon. Vous êtes inapte à la communion avec le peuple de Dieu. Vous êtes inapte à la communion avec Dieu. Vous êtes dans une situation de péché aggravé. Vous ne pouvez pas être une bénédiction pour les autres, et vous ne pouvez pas être acceptable pour Dieu. Vous voyez, la théologie biblique du pardon implique alors de comprendre que Dieu interdit le non-pardon, tout comme le meurtre, qu'il, bien que plus offensé, pardonne encore, et vous devriez le faire aussi, que si vous ne pardonnez pas, vous perdez la communion avec lui, et vous perdez l'amour des frères. Si vous ne pardonnez pas, et vous ne vous sentez pas obligé d'apporter votre propre rétribution, alors vous usurpez la vengeance même de Dieu, un acte de blasphème, et vous vous rendez inapte à l'adoration. Septièmement, un point très important, vos blessures et infractions, les blessures et les offenses contre vous, sont vos épreuves et vos tentations. C'est tellement important. Vous devez reconnaître que chaque fois que quelque chose vous arrive, qui est une offense ou un péché contre vous, c'est un procès et ou une tentation, et vous devez le traiter comme tel. De nouveau, dans Matthieu 5, au verset 44, Jésus a dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Si vous voulez être vraiment chrétien, si vous voulez vraiment manifester votre filiation, si vous voulez être vraiment et distinctement chrétien, alors peu importe ce que quelqu'un vous fait, vous leur pardonnez et vous les aimez. Chaque fois que quelqu'un vous offense, c'est un procès ou une tentation. Si vous réussissez et que vous leur pardonnez, c'est un procès qui produit de la force. Si vous échouez et que vous ne pardonnez pas, c'est une tentation produisant le péché. Vos événements, les événements qui vous arrivent dans la vie, vont dans un sens ou dans l'autre. Une bonne réponse en fait un procès qui produit la droiture. Une mauvaise réponse en fait une tentation qui produit de l'injustice. La seule préoccupation que vous devez avoir à propos de l'action de quelqu'un contre vous, c'est d'être sûr que vous ne tombiez pas dans le péché d'être tenté par cette infraction. Vous devez être peu préoccupé par les actions des autres contre vous, quels qu'ils soient, et très préoccupé s'ils deviennent des tests qui vous rendent fort ou des tentations qui vous rendent pécheur. Maintenant, nous supposons que Philémon savait tout cela, parce que Paul ne le lui en avait pas parlé dans sa lettre. Sûrement la théologie du pardon était connue de Philémon, et donc Paul ne le dit pas. Et je l'ai dit pour ceux d'entre vous qui avaient besoin de l'entendre. Maintenant, revenons au texte. Paul, ayant compris tout cela, plutôt que de construire son argumentation sur une réaffirmation de ce travail théologique de base, prend le dessus et appelle à l'amour, en sachant que Philémon sait que c'est là le fondement doctrinal. Les versets 8 et 9. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Il dit, je pourrais te commander. J'ai assez confiance en ma commission en Christ. C'est ce qu'il veut dire. J'ai assez d'audace. J'ai assez de courage comme apôtre commandé directement par le Christ ressuscité pour vous ordonner de pardonner basé sur la théologie du pardon, qu'il est mandaté par Dieu. J'ai le droit divin de vous commander. Je ne manque pas de courage pour utiliser ce droit divin, parce que c'est en Christ qu'il m'a été donné dans ma commission, et ainsi je pourrais exiger que vous fassiez ce qui est convenable, ou littéralement, ce qui convient au Seigneur, ce qui est typiquement chrétien, c'est que vous pardonniez. Pourtant, dit le verset 9, « Par amour, je t'en prie plutôt, je prends la position de l'apogée. » Paul aimait Philémon, au verset 1. Il l'appelle Agapetos, bien-aimé. Au verset 7, il dit « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Il y avait un lien d'amour entre ces deux hommes. Ils n'avaient pas besoin de commander. Vous souvenez-vous que Jésus a dit que si vous voulez garder la foi, faites ceci. Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, âme, esprit et force, et votre prochain comme vous-même. De tout cela sont suspendus la loi et les prophètes. Paul a dit, « En ceci est accomplie toute la loi. L'amour remplit toute la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. » Il dit dans Romains 13, « L'amour est à la hauteur quand quelqu'un possède un véritable amour vertueux donné par l'Esprit. C'est la hauteur, au-delà de la loi, de la demande et du commandement. Elle oblige à faire ce qui est juste. Et tandis que le pardon est obligatoire dans l'Écriture, et alors qu'il aurait pu être commandé par l'autorité apostolique. Paul sait que l'homme à qui il parle est un homme motivé par l'amour. Il ne parle pas à un frère pécheur qui est dans la chair. Il parle à un homme pieux, mature, spirituellement, et l'amour bougera son cœur. Ainsi, la référence à l'autorité de Paul est placée là juste pour que Philémon la regarde et l'entrevoie, puis elle est retirée. Un petit rappel qu'il pourrait utiliser s'il le voulait. Mais ensuite, il dit qu'il transmet sa demande, juste pour l'amour. Et puis, afin d'attendrir le cœur de Philémon, parce que c'est une scène difficile, il y ajoute deux déclarations sur lui-même. « Fais cela pour l'amour, dit-il, puisque je suis une personne comme Paul, l'ancien, et maintenant prisonnier du Christ Jésus. » Pour avoir le cœur de Philémon, Paul veut utiliser une communication sympathique. Il dit « Allez-vous faire cela pour ma pauvre vieille personne ?» Il tire vraiment sur ses ficelles du cœur ici, et il parle de lui-même de deux manières pathétiques qui tendront à attendrir Philémon. Après tout, c'est un endroit assez intéressant où nous trouvons Philémon. Pendant qu'il lit la lettre, comme vous et moi nous le faisons aujourd'hui, et qu'il lit jusqu'au verset 8, il est là dans sa maison, et en regardant juste devant lui, il peut voir Onésime, l'esclave fugitif qu'il a escroqué. Toute l'émotion qu'il ressent depuis le départ d'Onésime et tout le temps qui s'est écoulé depuis sa fuite bouleverse son cœur. Il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Voici Tychique qu'il connaît. Il a l'épître aux Colossiens dans ses mains pour la lire à toute l'Église. Et voici Onésime, cet homme qui a suscité de son cœur toutes sortes d'hostilités et de tentations à la colère auxquelles il a dû faire face. Il est de retour et il regarde droit dans les yeux et il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il ressent une émotion qui pourrait lui donner envie de prendre Onésime, de le battre ou de l'emprisonner. Et donc l'apôtre Paul dit « Je vais juste vous demander de lui pardonner pour l'amour. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, faire cela, parce que la demande vient de Paul l'Ancien, qui est un prisonnier. Il veut juste attirer un peu de sympathie. Le mot « ancien » signifie simplement « presbuté », qu'il est âgé. Il n'était pas si vieux, je veux dire 60 ans. Mais à cette époque, les personnes ne vivaient pas plus longtemps que cela, très souvent. Jean l'apôtre a vécu plus longtemps que cela, mais c'était rare. La durée de vie des personnes était alors plus courte. En fait, il n'était peut-être pas beaucoup plus âgé que Philémon, parce que Philémon devait être assez vieux pour avoir un fils dans le ministère. Mais le mot « ancien » porte plus avec lui que des années dans le cas de Paul. Il porte en lui l'idée d'un processus de vieillissement qui, sans doute, avait été accéléré par les expériences de Paul. Vous pouvez être sûr que les années qui s'étaient accumulées sur le dos de Paul étaient plus lourdes que celles qui s'étaient accumulées sur le dos de Philémon. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de temps, mais il y avait une période dans le processus de vieillissement. Paul était plus âgé que ses années. De retour dans Acte 7, quand il se tenait là, les regardait lapider Étienne, on dit qu'il était un jeune homme. Il n'est plus un jeune homme, il est vieux, et il est plus âgé que ses années, parce qu'il a enduré tant d'emprisonnements, de nourriture terrible, de maladies, de voyages, de persécutions, de travail, de blessures corporelles. Il a dit qu'il portait partout sur son corps les marques des cicatrices du Christ, à cause des pierres qui écrasaient son souffle, des fouets, et des bâtons et tout le reste, et des stocks dans lesquels il avait été prisonnier. Toute l'expérience pénible et débilitante entassée dans ces années de Paul l'a fait vieillir, et ce tendre aperçu vise à arracher les cordes du cœur de Philémon, et à lui faire sentir de la sympathie pour ce vieux guerrier, et ainsi exciter l'amour pour l'apôtre sacrificiel qui l'a conduit au Christ. Et si cela ne suffisait pas à susciter la sympathie, Paul secoue à nouveau les chaînes et dit « Je suis aussi prisonnier du Christ Jésus. Jamais un prisonnier de Rome dans son esprit, mais toujours de Christ Jésus, un captif du Christ. » Acte 28 dit qu'il était prisonnier dans une maison louée. Il a des personnes qui vont et viennent. Il est probablement enchaîné à un soldat romain. Et il dit « Philémon, peux-tu oser refuser une demande du pauvre vieux ? » Et quelle est la demande ? Quelle action doit-il prendre ? À partir du verset 10, nous entrons dans les détails, si vous voulez, du pardon. Et il y a trois actions que doit prendre celui qui pardonne. Trois choses sont impliquées dans le pardon. Tout d'abord, la réception. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier élément du pardon est simplement d'ouvrir votre vie et de reprendre la personne. Gardez-le dans votre vie. Verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Il suffit de le reprendre, dit-il. Je fais appel à toi, ramène-le. Et cela devrait être fait immédiatement, parce qu'il y a trois choses qui sont maintenant vraies à propos d'Onésime. Es-tu prêt à les écouter? Il est repentant, il est transformé, et il a prouvé sa fidélité. Il se dévoile dans ces versets très simples. Il dit que Philémon doit le reprendre, parce qu'il est prêt à être repris. Le pardon commence par la réception personnelle. Il faut combler l'écart, traverser la faille, guérir la plaie, laisser Onésime revenir dans ta vie. « Je fais appel à toi, dit-il, pour mon enfant. Comme toi, Philémon, je l'ai conduit à Christ. Il est mon fils dans la foi comme Timothée, comme Tite, comme les autres. » Et la scène est très dramatique, car il y a Onésime. C'est un choc pour Philémon, car il revient avec Tychique, et il revient avec cette expérience incroyable avec l'apôtre Paul. Et Paul dit de le reprendre, car il est venu en repentance. Vous dites, où est la repentance? Verset 10. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. » C'est implicite. Comment savez-vous qu'il s'est repenti? Parce qu'il est là, il est là, il est revenu. Il a fait une chose dangereuse. Il est redevenu humble, repentant pour faire face à l'homme qui l'avait lésé, à l'homme qui avait le droit de pouvoir sur sa vie pour le punir. Il est retourné. C'est la repentance. Vous n'êtes pas obligé de dire le mot. Vous avez juste à faire l'acte. Vous rappelez-vous de ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens et aux scribes? Il a dit « Pourquoi ne me montrez-vous pas les fruits de la repentance ?»« Ne parlez-en pas seulement. Voici le fruit. Il est retourné. C'était très dangereux. Cela aurait pu lui coûter la vie. Mais il a fait ce qui était juste. Paul dit « Je t'exhorte pour celui qui est devant toi, que j'ai engendré. Je suis l'instrument humain de son salut par la grâce de Dieu. Il est maintenant mon enfant. » Il est venu à Christ, ici, dans mon emprisonnement, et je le renvoie, ouvre les bras. Il se repent, évidemment, ou il ne serait pas là. Il est humble. Il cherche à rétablir une relation avec cet homme qu'il a lésé. C'est le premier élément du pardon, la réception de la personne dans sa vie. Ouvrez-vous, tuez l'hostilité, embrassez la personne. Deuxièmement, non seulement il était repentant, mais il a été transformé. Regardez le verset 11. Il dit que Philémon ne va pas récupérer le même homme qu'il avait perdu. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Ce n'est pas le même homme. Au fait, c'est un jeu de mots. Onésime signifie utile. C'était un nom commun pour les esclaves. Cela a probablement commencé comme un surnom. ils ont juste surnommé leurs esclaves utiles. Et ils avaient probablement surnommé quelques esclaves inutiles, parce que ces deux mots, dans le grec, sont très semblables. Donc, selon leur qualité, ils les ont surnommés utiles ou inutiles. Onésime signifie utile. Ainsi, Paul fait un petit jeu de mots au verset 11, quand il dit « Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Pourquoi ? Dieu l'a changé. Il n'est pas le même homme. Il est différent. Un changement radical a eu lieu. Il va te servir de la manière qu'on voit dans Colossiens 3, versets 22 et 23, la lettre qu'il lira un peu plus tard. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Il revient comme un serviteur différent. Il ne te servira pas en regardant pour voir si tu regardes. Il travaillera. Il va te servir comme s'il servait le Seigneur. C'est un homme transformé. Et il est maintenant utile. Il est à la hauteur de son nom pour toi et pour moi. J'ai vu son utilité, et tu le verras aussi. Il y a un troisième élément qui indique qu'il était digne d'être reçu dans une relation, et qu'il était non seulement repenti et transformé, mais il a été trouvé fidèle. Verset 12. Paul dit, « Je te l'ai renvoyé en personne, c'est-à-dire en envoyant mon cœur même. Cet homme a fait ses preuves. Je veux dire, le fait que je te l'envoie est très douloureux. Je l'ai renvoyé avec Tychique parce que je savais que c'était juste. Il devait être restauré. Il devait y avoir la réconciliation de la relation. Il devait être reçu par toi. Il fallait que ce soit bien fait. Mais je dois juste te le dire. Je le renvoie, et cela me brise le cœur. Cet homme peut être aimé. » L'apôtre Paul avait une immense capacité d'aimer, et il en était arrivé au point où il aimait cet homme. « En envoyant mon cœur, le mot « cœur » est en fait des entrailles, la partie inférieure où nous ressentons les choses. Les Hébreux parlaient de cette partie du corps comme le siège de l'émotion et du sentiment. Et Paul dit que ces sentiments sont profonds pour ce fugitif. Cet esclave, phrygien, criminel, est devenu son bien-aimé. Il dit « J'ai ouvert les bras et je l'ai pris. » Et je te le dis qu'il est un homme qui vaut la peine de connaître. Un homme à aimer. Et, en te l'envoyant, je me brise le cœur. Donc, il conseille de le reprendre, car il se repent. De le reprendre, car il a changé. De le reprendre, car il est digne. Il a de la valeur. C'est un ami merveilleux. Ouvre ton cœur pour lui. Reprends-le. Il dit aussi au verset 13, « J'aurais préféré le retenir auprès de moi. Je voulais le garder. » C'est pourquoi l'envoyer, c'est briser mon cœur. Écoutez cette petite note subtile, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Que veut-il dire par là? C'est une autre façon d'affirmer le caractère aimable de Philémon. Il dit au Philémon, « Je le renvoie, et cela me brise le cœur. Je voulais le garder pour qu'il puisse me servir dans mon emprisonnement pour l'Évangile, à ta place. Je sais que tu voudrais être ici pour servir. » Je connais ton cœur d'amour. Je sais que tu aimerais être ici, et j'ai bien pensé que je garderais Onésime, et que ce serait comme si tu étais ici, et qu'il s'occuperait de moi, car tu es incapable de le faire. Je sais que tu aurais voulu que je continue mon ministère, et je sais que tu l'aurais fait toi-même, si tu avais pu. Alors j'ai pensé le garder auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place, parce que je sais que tu aurais aimé le faire. Mais il continue, toutefois, verset 14. « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis. » Et il secoue ses chaînes pour la quatrième fois, juste pour que le cœur de Philémon reste tendre. « Je sais que tu aurais voulu qu'il reste, mais je ne le garderai pas sans ton consentement, pour que ta bonté ne soit pas par obligation, mais de ton plein gré. Je ne voulais pas que tu sois bon parce que tu n'avais pas le choix. Je voulais que tu sois bon parce que tu avais le choix. Je n'ai pas voulu faire quoi que ce soit contre ta volonté. Je ne veux pas forcer les choses. » Je sais que tu es un homme merveilleux. Je sais que tu aurais voulu me servir. Tu l'aurais fait toi-même. Et tu m'aurais probablement donné Onésime pour le faire. Mais je ne veux pas présumer de ton amour. Et je veux que tu fasses le choix d'être bon de ton plein gré. Plus que cela, Paul voulait qu'il voie la transformation, la repentance et la valeur d'Onésime. Bien-aimé, c'est là que commence le pardon. Cela commence par l'ouverture de ma vie pour laisser revenir la personne. Cela commence par oublier les rancunes, oublier les offenses, et simplement ouvrir sa vie pour les laisser entrer et dire « Oui, si vous êtes désolé, je vous reprends. Oui, je peux voir que vous n'êtes pas la même personne qui a fait cela. Oui, vous avez de la valeur, et je le reconnais. Si la personne que vous pardonnez ne se repent pas, vous ne pouvez pas entrer dans cette relation. Et donc le pardon est très unidimensionnel. Mais là où il y a repentance, changement et valeur, vous pouvez reprendre la relation. Maintenant, cela conduit à un deuxième élément. Le premier est la réception. Le deuxième est la restauration. Paul suggère que non seulement tu devrais ouvrir tes bras et le reprendre parce qu'il vaut la peine de l'aimer, mais tu dois le remettre en service. Tu dois le remettre dans la fonction et le ministère. Le verset 15 est fascinant. Peut-être, et ici il fait allusion à la providence de Dieu, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Quelle déclaration ! Paul dit, « Écoute, je ne vais pas atténuer la culpabilité d'Onésime. Évidemment, ce qu'Onésime a fait était mal, mais je veux juste que tu considères que peut-être Dieu avait un but. » Et Paul dit, « Peut-être que personne ne peut voir la providence secrète de Dieu au travail. Mais ne penses-tu pas, Philémon, que peut-être Dieu voulait utiliser ce mal pour produire le bien ? Rappelez-vous Genèse 50, verset 20. Vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelées selon son dessein. Psaume 76, verset 10. L'homme te célèbre même dans sa fureur. Dieu peut renverser, annuler tout mal. Dieu triomphe toujours du péché par son pouvoir providentiel et sa grâce providentielle. Il prend les contingences infinies et les décisions de toute l'humanité et les utilise pour accomplir son propre but. Et ainsi Paul dit, « Ne pensez-vous pas que Dieu avait peut-être planifié tout le long que quand cet homme te quitterait, il reviendrait d'une autre manière ? Il s'est séparé de toi pendant un moment, pour que tu le retrouves pour toujours. Tu as perdu un esclave, et tu as gagné un frère. Dieu l'a permis. Dieu l'a annulé. Une séparation temporaire pour créer une relation éternelle. Ce que fit Onésime aurait pu causer des dommages irréparables en termes de la confiance de Philémon. Mais il avait besoin de voir que Dieu travaillait, et Dieu avait conduit cet homme directement vers Paul pour qu'il se convertisse et qu'il revienne. Et maintenant le verset 16 dit qu'il n'est plus simplement un esclave. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas esclave. Ce n'est pas une proclamation d'émancipation. Il dit qu'il n'est plus simplement un esclave. Il est plus qu'un esclave. Il revient comme un frère bien-aimé. Alors reprends-le, oui, pour redevenir un serviteur, oui, pour être un esclave, mais pas seulement, plus que cela. Il dit qu'il a déjà été un esclave, verset 16, spécialement pour moi.
Mais il sera bien plus à vous deux dans la chair,
un esclave physiquement et dans le Seigneur, comme un frère en Christ. Tu l'as sur les deux positions. Paul n'abolit pas l'esclavage. Il dit qu'il revient en tant que serviteur. Il revient comme un esclave, mais il n'est plus seulement un esclave. Tu as perdu simplement un esclave, tu as retrouvé un esclave plus fidèle, qui opérera à la gloire du Seigneur, et tu as retrouvé un frère bien-aimé en Christ. Combien plus sera-t-il pour toi, dit Paul, qu'il ne l'était pour moi. Pour moi, il était seulement dans le Seigneur un frère. Pour toi, il est dans la chair un serviteur, et dans le Seigneur un frère. Tu as son service physique, tu as son service spirituel dans la plénitude. Le pardon signifie que j'ouvre mon cœur, j'accepte la relation avec la personne. Cela signifie que je l'accepte en termes de restauration au service. La réception est personnelle, la restauration pour l'utilité et le service. Troisièmement, la troisième composante dans une relation de pardon est la restitution. Il y a eu une erreur et il faut régler ce problème. Comment sera-t-il traité ? Évidemment, quand Onésime s'est enfui, il a fraudé Philémon. Si le prix d'un bon serviteur était de 500 deniers, Philémon a dû prendre 500 deniers, ce qui pourrait être un salaire ordinaire normal, 500 jours de salaire, et s'acheter un autre serviteur. Ce qui signifie que cela lui a coûté cher. Non seulement cela, il semble évident que quand Onésime est parti, il a pris une partie des possessions et de l'argent de Philémon afin de financer sa vie fugitive. Et donc, il l'a définitivement volé. La Bible a des principes très simples de restitution. Vous pouvez lire à leur sujet. Par exemple, dans Nombre, chapitre 5, versets 6 à 8, il devait être remboursé. Et donc, il doit y avoir une restitution. Comment Paul va-t-il faire face à cela ? Onésime n'a rien. Comme le fils prodigue, il a gaspillé toute sa substance dans la vie tumultueuse, et ensuite il n'a pas trouvé d'emploi. Il a simplement servi l'apôtre Paul, ce qui est compréhensible, à cause de sa foi nouvelle et des désirs de son cœur d'homme. Il revient, probablement, avec des poches vides. Alors, comment va-t-il faire face à la restitution? Versets 17 et 18. « Si donc tu me tiens pour ton ami, un koinonon, un partenaire de vie spirituelle, reçois-le comme moi-même. Il dit juste de le traiter comme tu me traiterais. Je veux qu'Onésime revête ma justice. Accueille-le comme si tu me souhaitais la bienvenue. Pardonne-lui comme tu me pardonnerais. Traite-le comme tu me traiterais. Reprends-le comme tu me prendrais. » Et puis, au verset 18, Paul ajoute « Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » La restitution est toujours une composante essentielle du pardon. Philémon aurait eu raison de dire « Tu me rembourseras ce que cela m'a coûté de te remplacer. Je vais le retirer de ton salaire. Tu feras des heures supplémentaires et tu me rendras ce que tu m'as volé quand tu es parti. Ce serait la justice. Ce ne serait pas faux. Mais ce n'est pas non plus mauvais d'être gracieux. Il n'est pas mauvais non plus de dire que « Je sais que tu es un homme impie et je comprends que ce comportement convient à ce genre de nature. » Maintenant que tu es une personne transformée, je ne te tiens plus responsable de ce que tu as fait dans ton statut non racheté. Je te pardonne gracieusement. Cela aurait été une chose merveilleuse à faire et aurait certainement été une approche chrétienne de la question. Mais pour enlever la pression exercée sur Philémon, pour qu'il soit d'accord pour un pardon total, Paul dit que tout ce qu'il te doit, je le paierai parce qu'il n'a pas d'argent. Évidemment, il n'avait rien à payer. Alors Paul dit, je vais le payer. Vous dites, Paul, avait-il de l'argent? Il a dû en avoir un peu. Il louait une maison dans laquelle il logeait. De temps en temps, il travaillait et accumulait de l'argent pour pouvoir soutenir des personnes autour de lui. Paul dit juste de le mettre sur sa facture. Puis au verset 22, il dit, « Je viens chez toi. » L'hypothèse serait, « Quand j'arriverai chez toi, je réglerai son compte. » Il doit y avoir une restitution. Parfois, la restitution est remboursée si une personne est capable de le faire. Mais parfois, la meilleure forme de restitution n'est que le simple pardon et la grâce de Dieu. Dans ce cas, il y a un composant merveilleux ajouté, et je veux que vous suiviez la pensée ici. Paul joue un rôle très très familier dans la vie de Philémon et d'Onésime. C'est une partie qu'il connaissait bien. C'est la même partie que Jésus-Christ joue dans la relation entre le pécheur et Dieu. Philémon est comme Dieu, il a été volé. Onésime est comme le pécheur qui a fui Dieu, qui a fraudé Dieu, qui a gaspillé sa vie. Et si le pécheur doit être réconcilié avec Dieu, quelqu'un doit payer le prix, n'est-ce pas? C'était le Christ. Paul connaît très bien la mort substitutive de Jésus-Christ. Il l'a prêché pendant des années. Ce que Paul dit est magnifique ici. Paul dit, « Je veux être comme le Christ. Je veux assumer la dette et le péché d'Onésime, afin qu'il puisse se réconcilier avec vous. » Est-ce que cela vous donne un aperçu de Paul? Vous souvenez-vous, quand il a dit à plusieurs reprises, « Soyez mes disciples, comme je le suis de Christ. » Vous le voyez ici comme le substitut à la réconciliation, tout comme le Christ. Nous ne sommes jamais plus comme Dieu que quand nous pardonnons. Nous ne sommes jamais plus comme Christ que lorsque nous portions la dette, afin que le pardon puisse avoir lieu. Paul agit comme le Christ. Il dit, « Je vais prendre la conséquence de son péché. Reprends-le chez toi. » C'est une belle perspective au sujet de la restitution. Il ne nous dit pas ce que Philémon a fait, mais je suis assez confiant qu'il l'a pardonné et qu'il n'a rien demandé à l'apôtre Paul. Comment pardonnons-nous? Premièrement, la réception. Ouvrons nos bras. Ramenons la personne personnellement à l'amour. Deuxièmement, la restauration. Le réinsérer pour qu'il soit utile. Troisièmement, assurez-vous qu'ils ont totalement et complètement réglé la dette. S'ils peuvent payer, et c'est juste, c'est leur désir. Recevez le paiement. S'ils ne le peuvent pas, offrez le pardon. Et peut-être que vous pouvez en même temps être le substitut de cette réconciliation, même pour vous-même. Tel est le caractère du pardon. Et tel est le pardon que Dieu nous demande de manifester. Inclinons-nous dans la prière. Père, nous sommes réellement affectés par cette formidable leçon sur le pardon. S'il y a quelque chose, Seigneur, dans mon cœur, ou dans le cœur de ton peuple, ici, qui pourrait être considéré comme une attitude impitoyable envers n'importe qui. S'il te plaît, pardonne-nous et enlève-le, car nous savons que tu interdis autant le cœur impitoyable que le meurtre. Nous savons que toi,
bien que beaucoup ont péché contre toi, tu nous pardonnes, et tu exiges que nous pardonnions le moindre péché de ceux qui sont moins saints que toi. Nous savons aussi, Seigneur, que le manque de pardon nous fait perdre la communion avec toi, et laisse nos propres péchés non pardonnés. Un manque de pardon nous prive de l'amour des autres chrétiens, et nous met sous le châtiment. Et puis nous savons, et c'est effrayant, qu'un manque de pardon enlève l'épée de ta main, car nous prétendons être un meilleur juge. C'est un blasphème. Nous devenons inaptes à l'adoration, et nous ouvrons la porte à la tentation. Seigneur, que nous ne soyons pas impitoyables, mais que nous soyons comme Paul qui pardonnait comme le Christ et qui cherchait à ce que les autres fassent de même. Et ainsi nous pouvons connaître ta bénédiction et la joie qui vient aux croyants obéissants pour l'amour de notre Seigneur. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.